Alors, je passe maintenant la parole à Alia Ghana, donc, qui est directrice de recherche au CNRS, au LADIS, donc sociologue spécialiste du Maghreb, et qui a préparé sa communication avec un collègue géographe, Gilles Van Ham, donc, qui est maître de conférence à l'ULB.
Merci. Merci, bonjour à tous. Et merci à Myriam, à Samda et aux organisateurs de ce colloque pour leur invitation. Donc ma communication s'intitule « La territorialité du vote islamiste en Tunisie, enseignement d'une analyse de géographie de sociologie électorale des scrutins de 2011 et 2014 ». Dans plusieurs pays d'Afrique du Nord, en particulier en Tunisie, le cycle des mobilisations qui a secoué la région a rapidement laissé la place en fait à celui des changements politico-institutionnels et à l'organisation d'élections libres et concurrentielles considérées comme un instrument majeur de la démocratisation et de la légitimation du pouvoir politique. Alors que les soulèvements populaires étaient principalement guidés par des aspirations de justice sociale et de liberté, et que les courants islamistes n'y ont pas joué vraiment un rôle central, les élections post-2011 ont été gagnées partout par les partis islamistes en Tunisie, en Égypte, ainsi qu'au Maroc. Donc ces résultats des élections post-révolution ont fortement interpellé les analystes sur leur signification profonde. Les explications qui en ont été données insistent sur la légitimité dont pouvaient se prévaloir les islamistes en tant que victimes d'une dure répression sous les régimes autoritaires de Ben Ali et de Moubarak. Elle souligne également leur capacité d'organisation et leur ancrage profond dans les sociétés nord-africaines. Et en Tunisie, plus particulièrement, les interprétations les plus courantes ont mis en avant la montée en puissance des clivages religieux, identitaires et culturels, dont l'expression était étouffée sous Bourguiba et Ben Ali. Également mise en avant de la perte de légitimité du projet moderniste incarné par Bourguiba et ses héritiers. Mais en fait, malgré l'abondance des études sur la transition politique en Tunisie, en particulier sur le rôle qu'y a joué la mouvance islamiste, aucune de ces études ne s'est véritablement penchée sur les bases sociales des forces politiques qui ont émergé sur la scène en 2011, en particulier sur les bases sociales du principal parti islamiste, Ennahda. Alors, ceci trouve son explication certainement dans la difficulté d'accès aux données, mais surtout dans l'absence d'une tradition de recherche dans le domaine de la sociologie et de la géographie électorale, absence qui est elle-même liée à l'autoritarisme qui a caractérisé le système politique tunisien pendant de longues décennies. Alors c'est en partant justement de ces constats que mon collègue Gilles Van Ham et moi-même avons lancé un projet de recherche sur les processus et les comportements électoraux dans la Tunisie post-révolution et dont l'objectif était de cerner précisément les déterminants et les bases sociales et territoriales du vote et plus largement aussi d'essayer d'éclairer en fait les fractures sociales et territoriales qui divisent la société tunisienne. Alors, nos recherches ont montré que les forces politiques laïques ou séculières et à référents religieux ont des sociologies et des géographies bien différenciées et que le vote Narda ne renvoie pas seulement à l'adhésion à l'idéologie politico-religieuse de ce parti et que ce vote, en fait, est bien inscrit dans l'espace social et territorial tunisien. Donc ma présentation a précisément pour objectif de rendre compte des principaux enseignements tirés de cette recherche sur les ressorts du vote islamiste en Tunisie, À l'origine, elle s'est organisée en 3 temps, mais j'ai l'impression que ça va être limité à 2. Je donnerai tout d'abord quelques éclairages sur la place qu'a tenue la question religieuse dans le débat politique autour de la période transitoire qui a mené aux élections de l'Assemblée nationale constituante, donc du 23 octobre 2011. Dans un deuxième temps, j'exposerai donc nos éléments d'analyse sur les bases sociales et territoriales du principal parti islamiste. Dans un troisième temps, je présenterai les conclusions que l'on peut tirer de cette première exploration du rôle de la variable religieuse dans l'orientation des comportements électoraux. Alors, la religion dans le débat public tunisien, l'émergence d'un clivage, au cours de la période transitoire donc, qui a mené aux premières élections libres après la chute de Ben Ali, la question religieuse, en particulier celle du rapport entre islam et État, a occupé une place prépondérante dans le débat politique. Alors, ce débat a été imposé par justement la mouvance islamiste et a contribué à la consolidation d'un clivage de plus en plus net entre forces séculières et la mouvance de l'islam politique représentée par le parti Nahda et également par d'autres courants plus radicaux à référence salafiste. Alors, ceci ne veut pas dire que la question du rapport entre religion et société, entre religion et État, ait été absente de l'histoire politique de la Tunisie indépendante. Mais en fait, plus que le conflit entre laïcs versus religieux, c'est le clivage entre modernisme et conservatisme qui, en fait, parcourt, l'histoire politique de la Tunisie, et ce, depuis le mouvement de libération nationale. Alors, ce clivage moderniste versus conservateur est celui, par exemple, qui a opposé historiquement le parti du Vieux Destour, premier parti nationaliste, au néo-destour, parti qui a conduit la Tunisie à l'indépendance sous le leadership de Bourguiba. Ce conflit s'est également exprimé, enfin ce clivage s'est également exprimé dans le conflit qui a déchiré bourguibiste et youssefiste au lendemain de l'indépendance, youssefiste du nom de Salah Ben Youssef, au sein même du néo-destour. Alors, dans ce conflit moderniste versus conservateur, le rôle que doit jouer la religion dans le politique, ainsi que aussi comme norme sociale, a pris donc une place grandissante, surtout en lien avec la montée en puissance du parti religieux, Nahda, dans le paysage politique tunisien, aussi qu'en lien avec le phénomène d'islamisation culturelle, c'est un terme employé par Sami Rorbel, donc phénomène d'islamisation culturelle qui était déjà perceptible sous l'ère Ben Ali. Alors plus globalement, en fait, les questions d'identité, de religion ou de modèle de société ont effectivement contribué à la consolidation d'un clivage entre les courants attachés aux valeurs de la modernité et à l'ouverture culturelle de la Tunisie, et d'un côté, et de l'autre côté, ceux prônant un retour aux valeurs traditionnelles et religieuses. Alors le titre d'ailleurs d'un ouvrage de Sami Rorbel qui s'intitule « Orphelin de Bourguiba et héritier du prophète » rend bien compte de ce clivage. Alors dans la période transitoire post-2011, les divisions idéologiques autour du rôle de la religion dans l'État et la société ont réémergé avec force et ont structuré la composition et les recompositions du champ politique partisan. Cela s'est exprimé durant les campagnes électorales de 2011 et 2014 et également dans les débats au sein de l'Assemblée nationale constituante où le parti islamiste et ses alliés ont tenté d'imposer la charia comme source principale d'inspiration de la loi dans la nouvelle constitution. Alors, la question religieuse, on l'a vu, ne peut pas être en fait séparée ou est étroitement liée à la question identitaire, mais elle devient progressivement une dimension essentielle de ce clivage entre modernistes et conservateurs. Alors, cette prééminence du clivage opposant modernistes et conservateurs a largement contribué à obscurcir, voire à occulter, le débat sur les questions sociales et économiques qui étaient pourtant à l'origine de la Révolution. Alors, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont cherché, à aller précisément au-delà d'une interprétation du vote islamiste comme renvoyant strictement au clivage entre courants séculiers et religieux, et donc ont essayé de réintroduire la question économique et sociale dans l'analyse des ressorts du vote islamiste. Alors, on fait ici principalement référence à des travaux, notamment ceux de Fabio Meron, selon lesquels l'opposition entre islamistes et modernistes serait en fait l'expression d'une lutte entre deux fractions de la classe, des classes moyennes. Alors que les modernistes ont été intégrés à l'État tunisien, les classes moyennes conservatrices en aurait été largement exclu, et dès lors, l'intégration donc des islamistes justement au projet national à la suite de la révolution de 2011 aurait eu pour corollaire la marginalisation des revendications sociales et économiques, ainsi que des classes déshéritées, donc dans le processus de transformation politique. Alors c'est précisément cette thèse qui nous paraît critiquable et à partir de laquelle nous voudrions justement proposer une analyse qui montre précisément que ce clivage moderniste-islamiste ne renvoie pas, n'est pas socialement l'expression de deux fractions des classes moyennes. Alors que disent donc nos analyses sur les bases sociales et les ressorts du vote islamiste et en particulier du vote Nahda? Je rappellerai très brièvement que nos analyses se sont basées en fait sur deux orientations méthodologiques. Tout d'abord une approche en fait de géographie électorale qui consiste à croiser des résultats électoraux à l'échelle à différentes échelles, donc des circonscriptions, des centres de vote, des quartiers, croiser donc ces résultats électoraux avec les données socio-économiques des territoires. Deuxième volet de l'approche méthodologique, c'est la mise en place de ce qu'on a appelé des observatoires localisés du vote, qui s'appuie en fait sur des enquêtes auprès des électeurs, mais aussi auprès de non-votants, ainsi que sur des entretiens auprès d'acteurs politiques, syndicaux, associatifs. Alors, quels sont donc les enseignements que nous pouvons tirer de ces analyses de géographie électorale et des enquêtes de terrain que nous avons menées en 2011 et également en 2014? Alors, en 2011, la géographie électorale du vote islamiste fait apparaître le parti Nahda comme un parti à caractère essentiellement urbain. Alors, El Nahda, effectivement, fait ses meilleurs scores dans les grandes villes métropolitaines du littoral, ce qui l'oppose très nettement à une autre liste électorale plutôt à caractère populiste, qui avait El Arida, qui avait attiré surtout les électeurs des régions pauvres de l'intérieur du pays et des foyers d'origine de la Révolution. Alors, le vote Nahda en 2011 s'opposait également au vote en faveur des partis modernistes, représentés aussi essentiellement dans les grandes zones métropolitaines du littoral, mais surtout dans les quartiers des grandes villes, alors que Nahda était surtout implanté dans les quartiers défavorisés des grandes villes, mais pas dans les quartiers les plus défavorisés. Alors, cette géographie du vote Nahda évolue quelque peu entre 2011 et 2014, en même temps d'ailleurs que celui du vote moderniste, qui est représenté en 2014 par le parti Nida Tunis, enfin, qui a été le vainqueur des élections législatives de 2014. Alors, en 2014, le vote Nahda montre des contrastes très importants à l'échelle nationale. Le parti obtient ses meilleurs scores dans le sud du pays et dans une moindre mesure dans certains quartiers des grandes métropoles. À l'inverse, le parti reste faible dans l'intérieur du pays et surtout dans les foyers d'origine de la Révolution, en particulier dans le centre-ouest du pays. Donc, par rapport à 2011, cette géographie montre un renforcement de la position de Nahda dans le sud du pays et un affaiblissement particulièrement important dans les grandes villes côtières, surtout à Tunis et à Sousse. Alors, qu'est-ce que, en fait, montre la géographie du vote islamiste en 2011, Nahda représentait, en fait, le vote Nahda présentait une corrélation, en fait, positive avec le développement socio-économique des territoires où il était implanté, mais ce n'est plus le cas en 2014. En revanche, le vote Nahda en 2014, plus encore qu'en 2011, est bien corrélé avec des indicateurs de conservatisme social, comme par exemple le taux d'activité féminin. Toutefois, il faut quand même le souligner, la capacité explicative de ces modèles statistiques est très modérée dans le cas justement de Nahda, et donc elle ne peut pas tout expliquer. Donc ces constats indiquent qu'une proportion importante de la géographie du vote islamiste n'est pas réductible aux caractéristiques sociales, économiques et démographiques des territoires. Elle relève aussi d'autres logiques que l'analyse quantitative ne peut pas capturer. D'où justement la nécessité de mettre en place aussi une approche qui permet de mieux comprendre les autres éléments qui influencent les comportements électoraux, en particulier à des échelles locales, donc essayer de comprendre les processus complexes qui influencent les comportements électoraux à l'échelle locale. Donc c'est dans cette perspective, dans cet objectif, que nous avons mis en place ces observatoires localisés du vote dans six régions en Tunisie, à Tunis, à Sfax, deuxième ville du pays, dans des villes ou des zones du nord-ouest, du centre-ouest et du Sud. Alors, qu'est-ce que montrent en fait ces enquêtes? C'est au-delà du fait qu'elles confirment une corrélation importante entre le statut social et le vote islamiste, c'est-à-dire que plus le statut social est élevé et moins on a tendance à voter pour un arabe. Au-delà de cette articulation ou corrélation, enfin qui apparaît de manière très nette, ce qui apparaît également comme fondamental, c'est le rôle que jouent les réseaux en fait d'encadrement social, politique, religieux dans l'orientation du vote, et ceci nous avons pu l'observer et le constater à travers justement le phénomène qu'on a appelé en fait le phénomène localisé du vote, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des territoires qui présentent des spécificités au niveau justement des comportements électoraux qui ne peuvent pas s'expliquer exclusivement par les données socio-économiques des territoires. Et donc ceci renvoie justement à l'ancrage ancien du parti islamiste dans ces territoires. C'est le cas en particulier du sud de la Tunisie, où les réseaux islamistes étaient implantés, fortement implantés dès les années 70, et où ils ont pu en fait mobiliser très fortement les électeurs en leur faveur, et cette capacité à mobiliser justement les électeurs dans certains territoires s'est renforcée à l'occasion des élections de 2014, alors que Ennahda perd aussi un certain nombre de ses électeurs dans les zones métropolitaines du pays. Ennahda a perdu pratiquement plus de 35% des voix, à peu près 38% des voix entre 2011 et 2014, et 20% des sièges au Parlement.
Il faut vraiment conclure là maintenant, s'il vous plaît.
Bien, écoutez, j'arrête là, je reviendrai si vous voulez dans la discussion sur les éléments que je souhaitais également préciser.
Je vous remercie. De toute façon, je crois qu'on a bien compris là le phénomène. Oui, vous avez parlé pratiquement 25 minutes, donc là, c'était difficile d'aller au-delà. Mais on a, je crois, très bien compris votre thèse tout à fait intéressante là sur l'importance des phénomènes localisés du vote et notamment des ancrages anciens des réseaux islamistes dans le sud du pays de la Tunisie.